Jazakallah khair. Merci beaucoup, professeur Abdullah. Avant de vous laisser la parole, moi j'aurais deux hadiths que j'aimerais que tu expliques, parce que si ces deux hadiths, on les comprend mal et on tombe dessus, qu'ils sont bon, discutés dans leur authenticité, mais partons du principe qu'ils sont recevables. Si on les comprend mal, il se peut qu'on dise que tu t'es trompé sur toute la ligne. Donc le premier hadith, il met en avant la division de la communauté musulmane et le deuxième, sa faiblesse. Le premier hadith, c'est dans son sens global, les chrétiens se sont...
افترقت اليهود على 70 فرقة والنصارى 72 وستفترق أمتي.
Exactement. Ça, c'est le premier hadith sur la division. Et le deuxième, que nous sommes comme l'écume de la mer. N'est-ce pas? Donc faiblesse et division. Donc, est-ce que ces deux hadiths vont dans le sens contraire de ce que tu as dit, ou bien faut-il les comprendre autrement?
Barakallahu fik. Heureusement pour moi, malheureusement pour toi, ces deux hadiths confirment à 100% ce que j'ai raconté. On va commencer par le deuxième hadith. Yushaku an tatada'a alaykum al-umamu kama tatada'a ou kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Il risque d'arriver un jour où toutes les nations vont s'abattre sur vous, comme les gens affamés qui s'abattent sur un plat, un couscous ou un tagine. قالوا أو من قلة نحن يا رسول. Est-ce que parce qu'on est peu nombreux, on est faible? قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Mais vous êtes, c'est l'écume, vous n'êtes rien. Et pourquoi? قال ولا يقذفن الله سبحانه وتعالى في قلوبكم. C'est parce que vous avez quelque chose. Il faut continuer le hadith parce que c'est quoi? Al-Wahan. قال وما هو الوهن. C'est quoi Al-Wahan? Alors, c'est quoi Al-Wahan? حب الدنيا وكراهية الموت. C'est exactement ce que j'ai en train de dire. C'est-à-dire, quand vos cœurs sont remplis de vos intérêts personnels, vous allez être divisé. Si vous remplissez le cœur de l'amour, etc., la division va cesser. Donc, le hadith, il confirme exactement. Le hadith, il ne dit pas qu'on va être comme ça. Tout à l'heure, j'ai pas bien expliqué kuntum. Le kuntum, je vous ai dit, c'est le temps, c'est-à-dire ce que cette gélule-là, ce médicament-là, il est opérant à n'importe quel temps. Toutes les civilisations connaissent une apogée, montent, puis après, descendent et disparaissent. Sauf la civilisation musulmane. Elle connaît des apogées, elle descend, mais elle ne disparaît jamais. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va nous donner de force ces gélules. Et ça y est, on reprend. Pourquoi? Parce qu'il y a Kuntum qui opère quel que soit le temps. À chaque fois qu'on revient à cette mission, l'amr bil ma'ruf wa nahy 'an al-munkar, l'iman billah, on fait le bien pour tout le monde, on est umma, on va être khayr. À chaque fois. À chaque fois qu'on laisse tomber ça, on devient à la traînée des nations. Et le prophète, dans ce hadith, il confirme ça. Il décrit, il ne dit pas c'est inéluctable, vous allez être comme ça. Mais il dit, ça vous arrivera comme ça à cause de ça. Et il nous donne en même temps le remède. C'est de ne pas avoir ilwahan. C'est karahiyat, hubb dunya wa karahiyat al-mawt. Aimer cette vie ici-bas et détester la mort. Mais détester la mort, c'est pas, personne n'aime mourir. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allahumma hawun alayya sakarat al-maut. Mais il parle pas de la mort, le fait de quitter la vie. Il parle de ce qu'il y a après la mort. On n'aime pas la mort parce qu'on n'a pas un dossier suffisamment lourd pour affronter Dieu. On n'aime pas la mort parce qu'on veut pas être jugé. C'est ça le problème. Même le vieux qui a vécu, 100 ans, il veut pas. Moi, j'ai connu une tante, matet Allah yarhamha rahimahullah. J'allais lui rendre visite de temps en temps. C'est une vieille dame. Elle me dit, ya oulidi, rani nestana, j'attends. Je suis vraiment. Ça y est. Je dis, mais ya amti, pourquoi? Dis, shbat oulidi, shbat mulha. Ça y est, je suis rassasié. Je veux plus vivre. Ça y est, j'attends. Mais elle est pleine vraiment de sérénité, elle attend pour elle, elle est impatiente de mourir. Ça y est, j'ai fait. Mais elle n'a pas peur d'affronter Dieu, parce qu'elle a réellement dans son cœur l'impression de la mission. Et je sais que c'est une dame extrêmement vertueuse et sincère. Tu trouves quelqu'un d'autre à 97 ans, il a la trouille de mourir, ce n'est pas parce qu'il a peur de la mort, mais parce qu'il n'a rien à offrir de l'au-delà. Il sait que sa mort, en réalité, c'est le commencement des châtiments. Et quand les musulmans, ils ont ce wahan-là, eh ben, ils vont devenir rotha, vont devenir l'écume, vont devenir faibles. Et pour être fort, eh ben, il faut faire l'inverse. Il faut remplir le cœur par l'amour de Dieu. Il faut enlever, justement, les intérêts personnels et favoriser les intérêts de la religion, de la communauté. Quant au premier hadith, il parle d'une évolution inéluctable dans l'histoire. C'est tout à fait normal. Chaque nation verra une partie de sa composante comprendre l'islam d'une autre manière, l'interpréter d'une autre manière. Mais on a une tolérance dans l'interprétation de ça. On peut permettre à des gens, quelqu'un qui fait la prière comme ça, on l'accepte. Qui fait 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 comme ça, on l'accepte. Celui qui fait comme ça, là, on dit, là, t'as dépassé la limite, là. Donc, là, il y a, la tolérance ne perd plus. Donc, il y a des, les chiites, ils ont tout comme nous avec quelques différences. Ils ont un problème essentiel, c'est l'imam. C'est qu'ils pensent que l'imam ne peut être que descendant du prophète. Et puis ils ont arrêté les imams sur 11 imams et le 12e il est disparu. Et ils pensent que ça c'est quelque chose de fondamental dans le dans l'islam. C'est un pilier fondamental. Et que l'imam aussi il est ma'soum, il commet pas de faute parce que Dieu va l'inspirer directement comme si. Ben ça c'est grave. Mais ça reste à l'intérieur des frontières de la tolérance. C'est pour ça qu'aucun savant musulman n'a décidé que les chiites ne sont pas musulmans. Par contre, Nusayriya, par contre, l'Ismaïliya, par contre, l'Baha'iya, Rafida, Al-Qaramita, ça ce sont des gens qu'eux, ils sont allés plus loin. Ils ont dit que Ali, Jibril, en réalité, s'est trompé. Jibril devrait amener le message à Ali. Et puis, il a confondu, il a trouvé le prophète. Mais déjà, c'est complètement débile, parce que quand Jibril est descendu, Ali, il avait 10 ans. Et le prophète avait 40. Même s'il s'est trompé, il voit pas que ça, c'est un gamin, et l'autre, c'est... Ils ont dit, il s'est trompé. Et le prophète, c'est un imposteur, il a pris. C'est pas destiné à lui. Hein? Donc là, ils étaient beaucoup plus loin que la limite. Ils étaient des musulmans, mais ils ont quitté l'islam. Et ben, des gens comme ça, il y en aura 72 ou 73. Il y en a eu. Et d'ailleurs, beaucoup de musulmans, de savants musulmans, disent que ça y est. On a des savants qui ont écrit des livres dans lesquels il y a les 73 firqa, les 73 groupes. Il n'y a qu'un seul groupe. Mais le groupe, c'est lequel? C'est tous les musulmans d'aujourd'hui. C'est-à-dire les frères musulmans, les salafis, tablir, shi'a, sunna, les tahrir, ils sont tous dans le groupe qui va être sauvé. Il ne faut pas comprendre que les différents groupes, c'est les frères musulmans, c'est un groupe, établir, c'est un autre, salafia, c'est le troisième, etc., que c'est ça. Non, la division n'est pas là. La division, ce sont les groupes qui ne sont plus musulmans. Ce sont les gens qui ont quitté l'islam. Et ça y est, il y a eu cette division, elle est terminée, l'islam maintenant, tous les musulmans, quelles que soient leurs différences, sont considérés comme Ummat al-Islam, comme la nation de l'islam. Et les divisions à l'intérieur du musulman ne concernent pas ce hadith-là. C'est une autre division. Fala tartalifu, wala tanaza'u fatafshalu, wa tadhhab rihukum. Ça, c'est à l'intérieur. C'est notre force. On reste des musulmans, mais on n'aura pas de force de frappe. Pourquoi? Parce que notre énergie, on l'a dépensée entre nous, pour qu'on s'entretue, pour que les uns contre les autres. Mais ce n'est pas la division qui est citée dans le hadith, qui est une division dans l'aqida, la compréhension même de l'islam. Donc les deux hadiths vont dans le même sens de ce que j'ai dit, c'est que les musulmans sont forts potentiellement, ils possèdent les moyens d'être unis et d'être forts. Seulement ces moyens appartiennent au cœur de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit opérer le changement dans son cœur. Et si on le fait, chacun, c'est toute la nation musulmane qui aura un seul. Regardez la prière. Regardez le. Quand on fait la prière, pourquoi on se dirige vers la Mecque? Vous connaissez la Terre. La Terre. Imaginez la Terre. C'est une sphère. Imaginez une petite sphère comme ça, la Terre. Et il y a des musulmans partout sur Terre. Mais tous doivent se diriger vers la Mecque. Supposons que la Mecque, pour vous faciliter, c'est le sommet de la sphère. Les musulmans qui sont partout dans le monde, chacun doit se diriger vers la Mecque, si on trace une tangente, puisque vous êtes tous des étudiants, une tangente au point où il y a le musulman qui fait sa prière. Toutes ces tangentes vont faire quoi? Vont former un cône, sorte de cône là, qui va monter vers le ciel. C'est une sorte de cône de lumière, ça va unir tous les musulmans et les cœurs des musulmans. Quand ils se dirigent tous vers Dieu, imaginez des paraboles de satellites dirigées tous, toutes ces paraboles dirigées toutes vers le ciel. Ben, la transmission, d'abord la captation du message de Dieu ne peut être que parfaite, et la diffusion de ce message ne peut être que parfaite. Imaginez un miroir, votre cœur c'est un miroir. Il reçoit la lumière de Dieu, il la reflète. Mais si le miroir il est opaque par la jalousie, par les péchés, par la perversion, ben, il ne peut ni capter la lumière, ni la diffuser. Qu'est-ce qu'il faut? C'est pour ça le péché, le prophète il a dit nukta, c'est comme une tache. Imaginons un miroir à 45 degrés. Quand le miroir il est bien nettoyé, il est bien dirigé vers le ciel, bah il va recevoir. Alors imaginons, tous nos cœurs sont des miroirs à 45 degrés propres. Imaginons la force de lumière que nous allons recevoir du ciel et la force du projecteur qui va nous éclairer la vie. Mais ça, il faut que chacun l'opère, chacun fasse cet effort-là dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose, pour répondre à la question, on n'est pas condamné à être faible et divisé. Si on l'est, c'est parce qu'on l'a choisi. Bah, tant pis pour nous. Mais si on veut sortir de la division et de la faiblesse, on a un bouton, on, off, chacun dans son cœur, on peut le faire et on sortira de cette situation. Et nous allons sortir, Inch'Allah.
On laisse place, avant d'aller se nourrir, à quelques questions. Et puis on terminera tout à l'heure si vous en avez encore. Donc une ou deux avant d'aller manger.
Pas nécessairement des questions. S'il y a des gens qui ont des commentaires, s'ils sont comme toi dans l'opposition, ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave.
Donc des critiques, des commentaires, des remarques.
Ce que je dis toujours quand les gens ne posent pas de questions, c'est qu'il y a deux choses d'une. Soit ils ont très bien compris, soit ils n'ont rien pigé. Ah bon? Ou peut-être la troisième, c'est qu'ils ont faim. Ils veulent.
Non, je vais vous envoyer le micro.
Dis-moi ton prénom en même temps, s'il te plaît.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fik. Kamal.
Kamal.
Non. Bon, en fait, moi je préfère plutôt le mot « on mérite ». C'est pas qu'on a choisi, c'est qu'on mérite. Notre faiblesse, on la mérite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith « Adlun fiyya qada'uk, madin fiyya hukmuk ». Ça c'est une chose, une autre chose. Je voudrais juste, si vous pouvez nous expliquer en fait, ou nous faire un commentaire sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala disait « Inna Ibrahim kana umma ». Pourtant, il était tout seul.
Pour la première chose, je suis tout à fait d'accord avec toi, Kamel. C'est vrai, on mérite. Mais quand j'ai dit « nous avons choisi », je le dis dans le même sens que toi. C'est-à-dire que on mérite puisque c'est un choix. On a choisi d'être divisé. Si on voulait changer... on change, mais wa in tatawallu yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amthalukum. Donc on mérite réellement notre situation. Inna Ibrahim kana umma. Le terme umma dans le Coran, il a trois significations. Umma, ça veut dire une partie du temps. À laps de temps. Umma, une partie de gens. Ça peut être quelques personnes. Ummatan minan nasi yaskun. C'est-à-dire quelques gens. Et umma, ça peut être un projet de civilisation. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida. C'est une description, ça. Il décrit. Mais nous, en réalité, on n'est pas umma wahida puisqu'on parle de division. Mais le Coran, il dit, wa inna hadhihi umma wahida. Il est en train de nous indiquer, de décrire une réalité. Mais parce qu'il ne décrit pas l'umma en tant que, un ensemble de gens, mais en tant que projet de civilisation. Et Ibrahim était un projet de civilisation. Ibrahim, c'est lui qui a donné naissance à pratiquement tous les prophètes et messagers. À part Nuh, alayhi salam, tous les autres prophètes et messagers sont les descendants d'Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam, c'est lui qui a inventé le terme islam. Mais islam, pas dans le sens que vous voyez dans les traductions, la soumission, et même des savants musulmans disent, en réalité, islam vient de la racine salama. Salama, ay salimun min al-uyub. Il n'y a pas de lacune, il n'y a pas de problème. Parce que les juifs étaient des musulmans. Mais l'islam, pour eux, c'était un adjectif. Parmi les différents adjectifs qu'ils ont, ils étaient musulmans. Tous les prophètes étaient des musulmans. Les chrétiens étaient des musulmans. Seulement, ils n'étaient musulmans que 5%, 10%, 10%. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient beaucoup de... Ils aimaient la guerre. Et salama, c'est salam, c'est la paix. Il n'y a pas de panne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lacune, il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de souffrance. C'est ça le terme salama. Et c'est ça, islam vient de là. Bien sûr, la conséquence, c'est la soumission à Dieu. Mais c'est une conséquence, ce n'est pas le sens. Seulement, il y aura une nation qui sera tellement dans cet adjectif que cet adjectif ne va pas rester un adjectif. Il va être à 100%, il va se transformer en nom. Ils vont être, les juifs sont des musulmans parce qu'entre autres, ils sont musulmans. Les chrétiens étaient des musulmans parce qu'entre autres, ils étaient musulmans. Ou de temps en temps, ils sont musulmans. Mais les seuls qui sont tout le temps musulmans et complètement musulmans, c'est nous. C'est pour ça que c'est devenu pour nous, pas un adjectif, mais un nom propre. Et qui nous a donné, qui nous a inventé ça? Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakum al-muslimin min qabl. C'est lui qui nous a donné ça. Donc c'est umma, non seulement... C'est un projet pour les prophètes. Mais même nous, on est venus des siècles, et on est la dernière des nations, c'est lui qui nous a donné notre étiquette, notre titre, notre nom. Inna Ibrahim kana umma. Parce que l'unicité, les juifs, Jacques Attali que j'ai cité tout à l'heure, il dit que les juifs, la participation des juifs à la civilisation humaine, parce que les juifs, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'humanité? C'est-à-dire, les pharaons, ils ont apporté des choses, les grecs apportaient quelque chose, les romains, les arabes, mais quand on cherche les juifs, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Mais Jacques Attali répond, parce que tout le monde, les historiens disent, quelles sont les traces de civilisation? Que ce soit des constructions, que ce soit des... Il n'y a rien. Il dit, nous avons apporté la meilleure chose pour eux. L'humanité, on a apporté l'unicité, le monothéisme. Bien sûr, ce ne sont pas les juifs, c'est Ibrahim. Allez, ça, c'est le premier qui a. Et inventer le monothéisme, parce qu'après Nuh, il y a eu une disparition, une dislocation de l'humanité. Il n'y a jamais eu un projet de civilisation, c'est-à-dire une sédentarisation des gens, construction de villes pour avoir un projet. Ibrahim l'a fait. Il l'a fait avec cette chose formidable qu'on appelle At-Tawhid. C'est-à-dire ramener les gens à Dieu. Et ça, c'est un projet, pas pour une période, pour l'humanité jusqu'au jour dernier. Et c'est Ibrahim, alayhi salam, qui a fait. Donc Ibrahim, il a fait tellement de choses, il a apporté à l'humanité, il nous a apporté à nous, il apportera en plus, comme s'il avait remplacé toute une nation, comme s'il a remplacé un milliard de musulmans. Ce qu'il a fait à lui, même le cheminement, on va dire, philosophique, spirituel, pour décréter que ce n'est pas la lune, son Seigneur, ce n'est pas le soleil, ce ne sont pas les planètes, ce cheminement-là, ce qu'on appelle dans la philosophie as-sababi, la causalité, c'est Ibrahim qui l'a inventé. C'est Ibrahim alayhi salam qui l'a donné. Et les Grecs l'ont pris, parce que les Grecs, il y a beaucoup de prophètes chez les Grecs, même si dans l'histoire on les camoufle, mais les prophètes grecs, ils ont pris de Ibrahim cette manière de démontrer l'existence. Donc ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam, c'est le résultat d'un milliard de personnes. Donc inna Ibrahima kana umma. Mais dans le sens, pas seulement la multiplicité du nombre, mais surtout le projet d'une existence, le projet d'une civilisation.